Podcast. Ludivine Sanchez, art thérapeute, postula au sociétariat de Canopée, décembre 2020. Identification. De tout temps, le choix d'un prénom est porteur inconscient de ce que l'on souhaite apporter à son enfant ou le voir devenir. Surtout devenir. La référence d'un tiers qui nous a fascinés et auquel on voudrait que le nouveau-né puisse tendre à prendre exemple, ne serait-ce que dans le simple fait de devenir quelqu'un de bien, ou tout simplement sympathique, dans le simple plaisir de l'allocution, il est porteur de ce que la sonorité même résonne en ses parents. La douceur, le caractère, la légèreté. Lorsqu'il est rare et encore plus inventé, le prénom est alors une indication de l'envie de distinguer l'enfant à être quelqu'un d'unique, de se créer totalement. Pour mes parents, inconsciemment, nos prénoms ne devaient pas être trop communs pour différentes raisons. Mon frère fut prénommé Grégory Jérôme. Grégory avec un Y, à l'américaine. Ma mère, en adoration pour son beau-père décédé, ne pouvait imaginer ne pas faire une passerelle avec ce petit-fils qu'il aurait sûrement aimé tenir dans ses bras. Au refus de la tradition espagnole, mon père venant de se faire naturaliser français jusque dans son nom et prénom, on coupa la poire en deux et Geronimo se francisa en Jérôme. En 1976, Ludivine n'était pas un prénom des plus empruntés, mais surtout les gens n'avaient pas la bonne référence quant à ses significations. Mais pour ma part, l'étymologie de base est teneur de beaucoup d'espoir. Ludivine et la francisation, on y est encore ici, de l'espagnol « luz divina », en deux mots, la divine lumière. Naître pendant la messe de Noël ne pouvait pas faire échapper mon identité à une relation avec l'instant. Ludivine, j'ai mis tant de temps à l'accepter. Je me suis fait appeler par choix par tant de surnoms dès l'enfance. Lolotte, Ludo, Ludie et même Cookie. Je crois que je rejetais beaucoup de la responsabilité que j'ai sentie tomber en moi à la prononciation de mon identité. Quand on demandait à ma famille mon prénom, c'était toujours suivi par l'explication de ma naissance et de la référence au divin. Ma mère était tellement fière de sa fille et de cette relation que pour elle, sûrement le divin était simplement dans le lien filial. Moi, je ne le voyais pas ainsi. Quelle responsabilité que de porter ne serait-ce qu'une bribe d'espoir du divin en soi. J'ai vite compris que mon premier rôle dans le clan familial serait de faire le moindre bruit possible. Ne pas déranger, de m'effacer. Tous avaient connu la guerre, les traumatismes de l'exode forcé ou choisi, la douleur de la reconstruction. Tous étaient des survivants à leur façon, et chacun pensait ses blessures différemment. Les survivants faisaient leur possible pour donner le plus de légèreté et d'insouciance à la nouvelle génération, mais la douleur finit toujours par ressortir quelque part. À la maison, c'était encore plus prononcé. Mon frère malade, je me devais de pouvoir être autonome, n'être une charge pour personne. Mes parents me faisaient confiance et je savais me débrouiller seule. Me préparer, partir à l'école toute seule dès 7 ans, quand ma mère devait remplacer mon père au petit matin à l'hôpital, afin qu'il puisse se rendre au travail. Attendre calmement le retour d'un adulte le soir. Utiliser le micro-ondes pour réchauffer mon lait ou mon repas. Préparer une valise pour mon frère avant l'arrivée en catastrophe des pompiers. Ma mère a toujours été décontenancée et émerveillée par mon aplomb de petite fille face aux situations graves. Je sentais surtout qu'elle avait besoin de savoir qu'elle avait fait quelque chose de bien fait dans sa vie. Pas juste quelque chose de bien, bien fait. Et quand elle posait ses beaux yeux sur moi, triste ou heureux, je ressentais toute l'attente d'amour et l'approbation qu'elle avait bien fait quelque chose dans sa vie. Une petite fille en bonne santé, assez maligne, tenace et qui la rendait fière. J'étais un pilier pour elle, déjà enfant. Elle savait que je pouvais lui parler de tout, qu'elle aussi pouvait me parler franchement. Les discussions avec elle étaient sans tabou aucune, politique, philosophique, pratique et même sexuelle si besoin. je n'étais pas pour autant dans une famille permissive. Il y avait en fait un axe de communication très large, basé sur la confiance réciproque et le dialogue ouvert. Ma crise d'adolescente se passait intérieurement. Le reste du temps, j'avais une poignée d'amis sincères, très souvent plus vieux que moi. Je dessinais beaucoup. Je placardais mes papiers partout au mur maintenant et remplissais des cahiers entiers d'histoires, de poésies inventées ou que j'avais lues quelque part. Les images et les mots prenaient la place en comblant les manques que je pouvais ressentir. Je n'étais pas une adolescente triste pour autant. J'aimais rire et mes tenues vestimentaires étaient assez excentriques. Je tenais de ma mère le goût de la mise en scène de soi. Pour ne pas montrer tes failles, crée-toi un habit de lumière. Ma mère était une disciple de David Bowie en ce sens-là. On me voyait arriver de loin avec mes chapeaux, un jour garçonne, le lendemain grande dame. Si je savais bien me situer face à ma famille, à mes amis et à ce qu'ils attendaient de moi, identitairement, j'étais complètement perdue. Je ressentais réellement l'absence de racines. Ma mère était toujours en quête d'identité, elle dont le père l'avait abandonnée sans même la voir. Mon père fuyait la maison par le travail ou perdu dans ses pensées quand il faisait les mots croisés. Mon frère cherchait violemment à savoir ce qu'il pouvait bien être en dehors d'un enfant malade. Il était en révolution constante, en colère contre tout et contre tous, et surtout contre moi. Ma grand-mère maternelle, Julia, vivait dans un mutisme complet devant la télé, toute la journée depuis que son aimé l'avait laissée là, mort. Il ne fallait pas parler et ne pas faire de bruit. À cette époque, j'avais bien compris qu'elle avait été elle aussi perdue dans ses pensées. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle était avec Geronimo. Elle revivait dans son esprit les moments partagés. Et du passé, on ne parlait toujours pas. Comment construire quand les sols sont meubles? Comment avancer quand la nostalgie est pour les gens qui servent de repère à l'adulte en devenir un empêtrement, un ressassement interminable ou doit être absolument tu? Alors je suis partie. À 17 ans, mes parents enfin séparés, c'était essentiel, j'ai pris mon envol. Un baccalauréat littéraire et artistique en poche, je suis partie chez la sœur de ma grand-mère maternelle sur Montpellier. Une pièce du garage aménagée et j'ai commencé à vivre pour moi. À apprendre à me connaître. Ne plus me fixer sur les êtres que j'aimais, mais sur moi. Une année réussie en faculté d'art, et prise à Bordeaux au concours des Beaux-Arts, je me voyais lancée. Mais sans argent, il est difficile de pouvoir faire ses études. Je ne voulais pas déranger encore une fois. J'ai fait ma valise et je suis partie pour l'Écosse en tant que jeune fille au pair, avec l'approbation et toujours et encore la confiance de mes parents. Ce fut la plus importante année de ma vie, la plus belle émotionnellement et sensitivement. La liberté d'être moi, de m'inventer complètement, apprendre mes limites, les repousser autrement que dans le sport ou l'art. Les repousser dans le ressenti émotionnel et environnemental. Le jour où j'ai mis le pied par terre à l'aéroport d'Aberdeen, après un voyage mouvementé par les trous d'air, l'air vif et pur m'a empli d'une force incroyable. Dès les premiers instants, et encore aujourd'hui, dès que j'y retourne, j'ai la sensation que mon corps est en osmose avec tout ce qui l'entoure. C'est une décharge totale dans mes neurotransmetteurs. Pour la première fois et dans ce seul endroit jusque-là dans ma vie, je me suis sentie chez moi. J'ai ressenti mes pieds prendre racine. Appartenir à une terre, à un rythme, à ce que je voyais, sentais, entendais. Je me suis retrouvée propulsée dans mon grand tout, dans lequel je cherchais tant à me plonger enfant. Pendant cette année, même si elle n'a pas toujours été facile, mon corps pouvait chaque jour être repu de sensualité. J'avais la chance d'être accueillie dans une famille débordante d'amour et de tolérance à mon tour, sauf qu'eux le faisaient avec une timidité des plus touchantes. Ils m'ont littéralement mise non pas au même rang, mais au même sang. Ils m'appelaient Cookie eux aussi, car ils avaient du mal à prononcer mon prénom. Et je le suis restée pour eux. C'était l'identité qui ressemblait le plus à ce que je voulais être au fond de moi, je n'ai jamais été romantique, préférant le romanesque ou la crudité des choses. Un peu baroque, parfois sombre, je savais tout autant être enjoué par l'absurde et rechercher la légèreté. J'ai pu faire vivre Cookie à 1000%. Quand je suis revenue en France, Cookie était resté en partie là-bas. Mais je savais que je pourrais toujours l'y retrouver. Je devais faire maintenant ma place auprès des miens. J'ai trouvé un contrat pour 5 ans. Je devais dorénavant répondre au prénom de Ludivine professionnellement. J'étais prête à l'accepter enfin et apprendre à connaître la personne que je voulais devenir pour moi et pour les miens. Mes racines avaient germé d'elles-mêmes. Je pouvais commencer à mieux me cerner.
Tanto la olvido dejar.